France Musique.
Un été avec Berlioz. Bonjour et bienvenue dans ce feuilleton sur Berlioz, chaque dimanche de l'été sur France Musique, à l'occasion du 150e anniversaire de la disparition du génie romantique français. Voici déjà le 7e et avant-dernier épisode où Berlioz voyage, compose, s'épuise et tombe amoureux, comme toujours. 1841, Berlioz a quitté son épouse Ariette et s'installe désormais en couple avec Marie Recio. C'est avec elle qu'il fera son premier voyage, grâce à elle peut-être. Depuis des années, Ariette, condamnée à Paris, l'empêchait de répondre aux diverses sollicitations de l'étranger. Avec Marie, il commence à voyager. Elle s'occupe dans l'ombre de ses affaires autant que de son intendance. Chanteuse, elle sait ses moyens limités et n'ambitionne pas une grande carrière. Seule Berlioz l'intéresse. Elle a 10 ans de moins, Ariette était plus âgée que lui, elle est pleine d'admiration. Ariette était admirée avant lui et elle lui consacrera sa vie jusqu'à la fin sous l'œil bienveillant de sa maman qui restera proche de Berlioz même après la mort de sa fille. Il en dit quelques mots dans sa correspondance où l'on peut lire une tendresse pour la maman et l'amour pour sa fille. Marie porte son nom maternel bien qu'elle s'appelle Martin, du nom de son père, militaire français revenu des campagnes napoléoniennes avec sa gouvernante espagnole. On ne sait rien de la rencontre d'Hector et Marie. Sans doute participait-elle à un chœur qu'il dirigeait à l'occasion d'un concert parisien. Grande, brune, d'une beauté discrète, Marie peut très bien chanter lorsqu'elle ne subit pas le trac, cette cruelle affection de certains musiciens. On l'a même entendue à l'opéra, dans La Favorite de Donizetti. D'ailleurs, même par amour, Berlioz n'aurait jamais laissé n'importe qui chanter Les Nuits d'été qu'il vient de composer. Avec les 6 bijoux des Nuits d'été, d'abord pour mezzo-soprano ou ténor et piano, et plus tard orchestré, Berlioz installe un genre, la mélodie française. C'est le pendant du Lied en Allemagne. Tous les compositeurs après lui, de Saint-Saëns, qui a bien connu Berlioz, à Messiaen, en passant par Duparc, s'inscriront dans ce genre si spécifiquement soucieux de la langue française et de la mélodie. Mariage parfaitement réussi avec les Nuits d'été, dont les textes de Gautier ont dû être si minutieusement choisis par Berlioz qu'il est tentant d'y entendre l'ambivalence des sentiments et quelques concordances biographiques. D'un côté, l'absence, la culpabilité et la perte de l'image adorée d'Harriet que pourrait suggérer le lamento sur les lagunes.
Ah, sans amour, sans...
Perte d'Ariette et culpabilité de Berlioz qu'on pourrait aussi imaginer dans une autre mélodie du cycle des nuits d'été, le spectre de la rose où le fantôme du remords semble poursuivre le compositeur. Ô toi qui de ma mort fut cause sans que tu puisses le chasser, toutes les nuits mon spectre rose à ton chevet viendra danser. Mais comme toujours avec Berlioz et ses contradictions irréductibles, les sentiments malheureux n'empêchent pas le bonheur des jeux amoureux, l'envie d'un nouveau départ et la joie retrouvée avec Marie, qu'on pourrait alors associer à la Villanelle ou encore à l'île inconnue. Ainsi commence le temps des voyages. Une tournée est une aventure à cette époque. Même invité, il est rare de trouver un orchestre à disposition. Et Berlioz doit rassembler les musiciens, faire des auditions, fournir les partitions, produire son concert et espérer que les recettes le fassent entrer dans ses frais, ce qui est rare. Dès l'automne, il fait un petit tour d'essai à Bruxelles, pays de Fétis, le grand musicologue devenu peu à peu sa bête noire, et de Saxe, inventeur et facteur d'instruments que Berlioz estime beaucoup. Il y produit deux concerts, appréciés, puis se rend à Francfort où il échoue à en organiser un autre. Rentré à Paris, il se prépare pour un long voyage de 6 mois, tout heureux d'avoir vendu 5000 francs son traité d'instrumentation à un éditeur parisien. Il souhaite désormais le vendre à des éditeurs italiens, anglais et allemands, car pour ses livres et pour ses partitions, Berlioz pense en européen. Et le voilà reparti, le 12 décembre 1842, Bruxelles encore, puis escale à Francfort pour une arrivée à Noël à Stuttgart, où un contact lui a été recommandé. Il y dirige son premier concert le 29, uniquement composé de pièces de son répertoire. Ouverture des Francs Juges, Marche des Pèlerins, d'Harold en Italie, Bâle et deux autres mouvements de la Symphonie Fantastique, car il est dans les usages de l'époque de pouvoir présenter partiellement une œuvre. Inutile donc au public d'aujourd'hui de s'exciter à crier « chute » entre les mouvements lorsqu'ils sont ponctués d'applaudissements. Marie aussi participe au concert, notamment en chantant la version orchestrée de La Belle Voyageuse dont c'est une première. Le roi Guillaume Ier est satisfait, sa cour aussi, évidemment. Quant au reste du public, plutôt tiède, Berlioz se gardera de le faire savoir à Paris.
Thank you. Thank you. Un été avec Berlioz, Bruno Messina, France Musique.
Puis le voyage de Berlioz en Allemagne continue, toujours selon le même principe. Long trajet, arrivé immédiatement suivi de la rencontre des amis ou des personnes recommandées par des amis, puis difficulté à organiser un concert, voire deux lorsqu'il bénéficie d'un vrai soutien. Comme à Leipzig où il a l'aide de Mendelssohn, Dresde où le maître de chapelle est son chaleureux ami Lipinski, et Berlin où règne son parrain de Légion d'honneur Meyerbeer. C'est à Leipzig que Berlioz rencontre le couple Schumann. Robert le reçoit comme un vieil ami et lui présente Clara. Il défendait sa musique depuis longtemps. À Dresde, Berlioz se laisse assister lors des répétitions par un jeune Wagner, son cadet de 10 ans. Quant à Darmstadt, Berlioz y retrouve Ludwig Schlosser, avec qui il faisait danser les jolies filles de Le Sueur à Paris. C'est un tendre ami, parmi les premiers à partager sa passion de Shakespeare, de Goethe et de Weber. Enfin, à Weimar, où ne règne pas encore Liszt, il est ému aux larmes de se retrouver devant le pavillon de Goethe et la pauvre mansarde, jadis habitée par Schiller. Il regrette bien souvent de devoir s'appuyer sur de mauvaises traductions des textes, d'avoir des difficultés à se faire comprendre, il utilise même le latin, parfois, pendant les répétitions, et de ne rien entendre à la langue de Goethe, alors même qu'il se sent musicalement aux trois quarts allemand, enfant de Gluck, Beethoven et Weber. Retour à Paris, Berlioz rêve déjà de repartir, mais il lui faut attendre. C'est donc la reprise de ses chroniques dans les journaux où il raconte ses aventures allemandes. Il les reprendra ensuite dans un livre associé à ses aventures italiennes, qui sera lui-même à son tour fondu dans les mémoires. recyclage permanent chez Berlioz pour l'écriture musicale comme pour l'écriture en général. Comme si les émotions se trouvaient indéfiniment recommencées. En attendant l'occasion d'un nouveau départ, Berlioz s'associe à un promoteur peu scrupuleux pour organiser un festival pour la clôture de l'exposition de l'industrie à Paris. Le concept, comme l'utilisation du mot festival, sont de lui. Dans la même période, d'ailleurs, Liszt invente le concept de récital. Pour son événement, Berlioz s'épuise à réunir plus de 1022 musiciens et chanteurs et compose un hymne à la France emphatique qui triomphe devant 8000 spectateurs. Mais ce succès brillant, comme il dit, ne lui rapporte rien et il en est bouleversé. De toute façon, il ne va plus très bien. Son fils, Louis, lui en veut d'être parti et multiplie les appels au secours depuis son pensionnat à Rouen. Et Ariette continue de sombrer. Le destin se moquant même un peu par l'entremise du directeur du théâtre de l'Odéon qui commande à Berlioz une musique de scène pour Hamlet, dans le lieu même où la belle Ariette et Shakespeare l'avaient foudroyé. Cette marche pour la dernière scène d'Hamlet composera, avec la méditation religieuse et la mort d'Ophélie, un sombre et magnifique recueil de trois pièces pour chœur et orchestre, intitulé Tristia. Inquiet pour sa santé, son vieil ami le docteur Amussa l'envoie se reposer à Nice, où il reste une quarantaine de jours. De quoi se requinquer, se promener, marcher, se baigner et écrire une ouverture célèbre, la Tour de Nice, devenue le corsaire dont on entend l'introduction au générique de ce feuilleton. Puis les affaires reprennent avec des concerts à Marseille et Lyon, prétexte à une visite à la Côte-Saint-André pour saluer son père. Et toujours la critique musicale qui lui permet quelquefois de s'enthousiasmer, comme pour Le Désert, ode symphonie de Félicien David qu'il dirige l'année d'après au Cirque des Champs-Élysées. Berlioz reprend la route le 22 octobre 1845. Il traverse l'Allemagne, s'installe à Vienne, poursuit jusqu'en Bohême, produisant 17 concerts avant son retour à Paris au mois de mai suivant. Mais ce voyage diffère du premier. Sont-ce les forêts à traverser, les paysages tristes de l'hiver, les flammes et les fumées des machines à vapeur empruntées, bateaux et trains, l'ombre du temps qui passe. La légende de Faust semble l'accompagner tout au long du chemin. Et il écrit, ici et là, dès que possible. Lui, d'habitude contraint à rêver sous les toits, travaillant dans sa mansarde à Paris, le voilà au grand air, ivre de sensations et possédé par son projet. Étrange, ce second voyage, dont il parlera moins que le premier, malgré les succès à Vienne, où l'on s'y connaît en musique, Breslau en Silésie prussienne, aujourd'hui en Pologne, et Pest, devenu Budapest, où il devient un héros national grâce à la marche de Rákóczi. Car les Hongrois, comme les Italiens, en avaient assez du joug autrichien et revendiquaient leur propre destin. Enfin, Prague, lieu aux légendes propices à préparer l'ambiance de la damnation de Faust, inspiré des 8 scènes écrites plus de 20 ans plus tôt. La musique est superbe et lorsque Berlioz rentre en France, encore dans la gloire de ses aventures passées, il ne peut imaginer le four produit par sa légende dramatique à l'opéra comique. Faust l'a véritablement ruiné, autant moralement que pécuniairement.
Thank you.
Suite à l'échec de la damnation de Faust à Paris, Balzac conseille à Berlioz d'aller en Russie pour compenser ses pertes. Et ce sera fait en 2 concerts à Saint-Pétersbourg. Mais il lui a fallu arriver en Russie. Parti à la mi-janvier 1847, en plein hiver, il se heurte aux difficultés climatiques. Le train n'avance pas, il est bloqué 2 jours à Bruxelles par la neige. Puis il reprend la route, s'arrête à Berlin où il revoit Schumann et rencontre le roi de Prusse qui lui donne une lettre d'introduction pour sa sœur, Alexandra Féodorovna, épouse du tsar Nicolas Ier. La Russie est puissante et conquérante sous son autorité. On y parle mieux le français qu'ailleurs en Europe. Mais l'aristocratie s'oppose farouchement aux idées libérales largement diffusées depuis la Révolution française. En art, subissant la double domination des Allemands et des Italiens, les Russes ont besoin de s'émanciper et créer leur propre école. Et celle-ci aura 2 papas, Glinka, ami de Berlioz, rencontré à Rome et revu à Paris, il travaillera à l'introduction d'éléments typiquement russes dans la composition, et Berlioz, dont l'œuvre inclassable et le traité d'instrumentation offrent de solides voix pour créer les couleurs inouïes d'une musique nationale. Rapidement introduit dans le milieu musical russe, il bénéficie de la bonne opinion de la famille impériale et ses concerts ont un grand succès. La damnation de Faust suscite en Russie infiniment plus d'enthousiasme qu'à Paris. Et c'est ainsi, précédé de sa gloire à Saint-Pétersbourg, qu'il reprend un de ses pénibles traîneaux pour rejoindre Moscou. Les péripéties à l'aller comme au retour sont extraordinaires et Berlioz est passé tout près de finir dans la Volga. Mais peu importe la difficulté des aventures, Berlioz est vaillant comme un cosaque. Son succès moscovite est phénoménal. Il dirige Roméo et Juliette, le Carnaval romain et la Symphonie funèbre et triomphale et assiste à une représentation d'une vie pour le tsar de Glinka. Puis il retourne à Saint-Pétersbourg où l'attend une belle russe, mystérieuse choriste dont le nom fut seulement connu de son ami Tajan Roger. Elle est désormais sa Marguerite à qui il chante la belle phrase de l'adagio de Roméo et Juliette au soleil couchant sur le bord de la Neva, lui broyant le bras contre sa poitrine. Je le cite, évidemment. Qui l'aurait dit ? Berlioz est difficile à suivre. Il est de nouveau fou d'amour et pense sincèrement à ne jamais rentrer de Russie. Hélas pour lui, Berlioz doit quitter la Russie et revenir à Paris, où il n'obtient toujours rien de l'opéra. Inquiet de la santé de son père et des tristesses de son fils, il décide de retrouver les siens et de passer quelques jours à la Côte-Saint-André. C'est aussi l'occasion de présenter Louis, déjà 13 ans, à son grand-père, et de voir ses sœurs et d'aller chasser avec son fils. Heureuse semaine qui précède un départ pour Londres, prévu pour de longs mois. Il débarque en Angleterre le 4 novembre 1847, jour de la mort de Mendelssohn. Faut-il y voir un signe ? Il prendra dans le cœur des Anglais la place laissée par son ami. Tout commence avec le producteur Julien, l'homme des concerts-promenades à Londres. Il l'engage pour diriger une série de concerts au Drury Lane. Car Berlioz est un chef d'orchestre, maîtrisant un répertoire où Beethoven côtoie Handel, Rossini, Gluck, Weber et même Mozart, dont il dirige les Noces de Figaro le 11 février 1848. À ce moment, Berlioz est enthousiaste et pense qu'il ne rentrera plus de sitôt dans son pays, où les taxes sur les concerts l'indignent. Malheureusement pour lui, à Londres, le producteur Julien fait faillite, et il n'y a pas de prince anglais pour prendre le relais. Marie, qui était restée à Paris, le rejoint pour l'aider. Elle est meilleure en affaires que lui. Elle le conseille, le soutient. Il organise en juin un grand concert avec des musiciens bénévoles à son propre bénéfice. Mais cette vie ne peut plus durer. Il faut rentrer en France où la situation est fortement agitée. C'est de nouveau la révolte à Paris, de nouveau les barricades. Et Berlioz en a marre. Harriet est au plus mal, en partie paralysée. Louis est désespéré, il veut quitter l'école pour une carrière dans la marine. Lui pourrait perdre son poste au conservatoire à force d'absences répétées. Son père est mort en juillet 1848 et comme sa mère, il n'a jamais entendu le moindre de ses concerts. Berlioz est abattu et croit si peu en lui qu'il présente sa pièce « L'adieu des bergers à la Sainte Famille » sous un pseudonyme, Pierre Ducret. Pourtant, c'est un succès et Berlioz dévoilera la supercherie et y ajoutera par étapes, sur plusieurs années, une première partie saisissante, le songe d'Hérode, l'adieu des bergers devenant la partie centrale et une troisième délicate et presque apaisée, l'arrivée à Saïs, où Ismaël offre une place à Israël. Le tout formant l'enfance du Christ, présenté sous le nom de trilogie sacrée le 10 décembre 1854. Ainsi Berlioz a terminé sa 50e année. Harriet est morte, elle aussi, désormais. Il n'a pas répondu à la sollicitation pour la direction de la chapelle royale à Dresde et Paris ne lui propose rien, toujours rien, pas même une place à l'Institut. Berlioz est fatigué. Aux misères des rois, extrait de l'enfance du Christ pour terminer ce septième et avant-dernier épisode du feuilleton Un été avec Berlioz, à retrouver sur francemusique.fr pour les podcasts et les titres des œuvres diffusées. À la réalisation, Perrine Mingui, Annie Comier et Frédéric Changenet. Je vous retrouverai avec plaisir pour la suite et la fin dimanche prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.